Chapitre 12. Le sens du sacrifice. Pendant les semaines qui suivirent, Bellatrix baigna dans l'allégresse la plus absolue. Peu lui importaient les réprimandes acerbes de son père, l'inquiétude de sa mère ou les regards inquisiteurs de sa tante. Elle passait la journée à dormir et à rêver de son nouveau professeur, puis se réveillait le soir pour se rendre en secret au serpent qui fume. En quelques semaines, Bellatrix avait appris bien plus de choses qu'en 4 années de scolarité à Poudlard. Elle s'était jetée à corps perdu dans l'univers défendu de la magie noire et avait déjà absorbé un nombre de connaissances absolument faramineux. Un soir, après avoir descendu les marches en pierre brute qui menaient au sous-sol du serpent qui fume et traversé le rideau de dents qui la séparait de Lord Voldemort, Bellatrix eut la surprise de voir le corps d'un homme étendu sur la grande console en marbre. À en croire sa peau verdâtre et son immobilité parfaite, il était mort depuis quelque temps. Voldemort se tenait juste à côté de la console et regardait le cadavre avec attention. Quand Bellatrix entra, il leva les yeux et la fixa pendant un long moment, comme pour évaluer à quel point elle était digne de sa confiance. Bellatrix se concentra pour que son attitude se rapproche le plus de celle que Voldemort souhaitait voir, celle d'une élève ingénieuse, intrépide et surtout obéissante. Finalement, Voldemort prit la parole avec l'air de lui faire une immense faveur. « Bellatrix, te souviens-tu de ce que je t'ai expliqué ces dernières semaines sur la création d'Inferi ?» Bellatrix acquiesça avec ferveur. « Eh bien, nous allons avoir l'occasion de le vérifier, » dit Voldemort. « Je reviens dans quelques heures. D'ici là, c'est à toi de faire le nécessaire. » D'un signe de tête, il désigna le cadavre, et lorsque Bellatrix comprit ce qu'il attendait d'elle, elle fit de son mieux pour empêcher l'excitation de lui monter à la tête. Créer un Inferius était un exploit que peu de mages noirs pouvaient se vanter d'avoir accompli. Et voilà que Voldemort lui proposait d'essayer. Elle ne s'était jamais sentie aussi valorisée. Dès que Voldemort eut disparu, Bellatrix s'attela à sa tâche. Elle se souvenait parfaitement de la procédure, d'autant plus précisément qu'elle avait demandé à son cousin Régulus de lui faire réciter les différentes incantations le matin même. En examinant le matériel dont elle disposait, Bellatrix fut confrontée au premier obstacle. Elle disposait d'un chaudron rempli de sang, mais malheureusement, celui-ci était déjà un peu coagulé. Or, le procédé de création d'un Inferius exigeait que les pentacles et les runes soient dessinés avec du sang frais. Elle savait pertinemment que la magie noire ne tolérait aucune approximation et que ceux qui osaient s'aventurer sur ce terrain glissant sans en connaître les règles ne survivaient jamais bien longtemps, car la moindre erreur, si petite soit-elle, mettait les sorciers à la merci des forces obscures qu'ils avaient invoquées. En pensant aux dessins effrayants qui illustraient cette explication dans les innombrables livres de magie noire qu'elle avait lus, Bellatrix prit un des petits poignards rouillés qui se trouvait dans un des coffres rangés contre le mur, fit une profonde entaille dans la paume de sa main gauche, y plongea 2 doigts de la main droite et commença à dessiner le premier pentacle sur la console autour du cadavre. Elle ne connaissait pas l'homme dont il s'agissait, mais à en juger par les haillons qu'il portait, sa vie avait peu d'importance. Son visage était déformé par son dernier cri, mais Bellatrix ne ressentit aucune pitié pour lui. Si le Seigneur des Ténèbres lui avait ôté la vie, il devait y avoir une bonne raison. Bellatrix lui faisait confiance pour cela. Elle s'appliqua donc à dessiner avec son propre sang les courbes et les runes anciennes qui constituaient le pentacle et les sceaux nécessaires à la création d'un Inferius. Puis, elle fit 7 pas vers un des murs de la pièce et commença à dessiner un deuxième pentacle, plus petit que le premier. « Je réalise le souhait du Seigneur des Ténèbres. » se répétait-elle avec excitation, tout en complétant ses inscriptions. Ensuite, elle disposa des bougies aux endroits adéquats, 4 dans chaque coin de la pièce et 7 autour de chaque pentacle. Elle vérifia une dernière fois toutes les runes qu'elle avait inscrites, la géométrie irréprochable des courbes qu'elle avait dessinées sur la pierre, puis alla se placer au milieu du deuxième pentacle, en prenant bien soin de ne pas dépasser 1 millimètre. Elle regarda avec convoitise le cadavre qui était étendu au milieu du grand pentacle. Bientôt, celui-ci serait son esclave et lui obéirait sans réfléchir. Elle se demanda furtivement ce qu'elle pourrait lui demander de faire, mais elle choisit de se concentrer sur les prochaines étapes afin d'être certaine de ne commettre aucune erreur. Elle balaya la pièce du regard afin de s'assurer qu'aucun détail n'avait échappé à sa vigilance, puis se concentra intensément sur le cadavre qui se trouvait devant elle. Elle répéta intérieurement la première incantation et la prononça d'une traite en articulant soigneusement. Aussitôt, la température ambiante chuta d'un coup. Une pellicule de givre tapissa le sol, le sang frais étendu sur la pierre, les cheveux bouclés de Bellatrix et ceux du Maccabée. Toutes les bougies s'éteignirent simultanément. Une violente bourrasque fit cliqueter le rideau de dents et la trappe en bois qui se trouvait en haut de l'escalier s'arqua vers l'intérieur de la cave dans un sinistre grincement métallique. Dans la pénombre de la pièce, une vapeur obscure se détacha du sol. Des bruits de pas émis par des pieds invisibles montèrent du sol de pierre et des murmures inintelligibles mais incontestablement malveillants sifflèrent aux oreilles de Bellatrix, semblant provenir de tous les endroits à la fois. Bellatrix sourit. Les forces du mal étaient présentes, prêtes à obéir à ses ordres ou bien à la terrasser si elle avait la malchance de faire le moindre vice de formule dans la suite du procédé. Elle prononça la deuxième incantation, indifférente à la buée qui s'échappait de ses lèvres. La vapeur obscure ondula lentement, avec réticence, s'achemina le long des lignes de sang tracées par Bellatrix, tout en sécrétant de fins tentacules sifflants que traquait avidement la moindre faille dans les sceaux que Bellatrix avait dessinés. Puis la vapeur obscure s'agrégea autour du corps et pénétra en lui par tous les orifices disponibles. Et progressivement, les bruits de pas et les murmures malveillants s'évanouirent. Et après un court silence, le corps s'arqua brutalement. Sa poitrine inerte aimantée vers le plafond, la tête basculée en arrière, et plusieurs voix aiguës poussèrent un long cri glaçant et assourdissant. Bellatrix sursauta, mais resta bien en place. Elle s'attendait à des tentatives de déstabilisation et savait qu'on l'inciterait à mettre un pied hors de son pentacle, ce qui signerait très certainement son arrêt de mort. Sans se soucier d'être entendue par-dessus les hurlements atroces qui lui vrillaient les oreilles, Bellatrix prononça distinctement la troisième et dernière incantation, et le corps de l'inconnu retomba comme une masse sur la pierre de la console. Des flammes vertes vinrent lécher la bordure intérieure du grand pentacle, puis du plus petit où se trouvait Bellatrix, et enfin, tout se tut. Bellatrix reprit sa respiration. Elle avait le tournis, mais elle le mit sur le compte de l'excitation plutôt que sur la quantité de sang qu'elle avait utilisé pour dessiner les pentacles et les sceaux. « Lève-toi, » dit-elle d'une voix sourde. Elle dut réprimer un cri de joie quand elle vit le cadavre s'animer et se redresser pour lui faire face. Ses yeux étaient entièrement blancs, enfoncés dans ses orbites, dépourvus de vie. Elle avait réussi. « C'est très bien, Bellatrix. » dit une voix douce derrière elle. Bellatrix fit volte-face rayonnante. Voldemort l'observait avec un intérêt beaucoup plus authentique que celui qu'il lui avait montré dans le Poudlard Express. Jamais Bellatrix ne s'était sentie aussi fière. « Je te félicite. Maintenant, dis-lui de m'obéir définitivement, » énonça Voldemort. Bellatrix obéit et Voldemort regarda les yeux vides de l'Inférius avec satisfaction. « Assieds-toi dans un coin et ne bouge plus. » dit Voldemort. Bellatrix esquissa un geste avant de réaliser que Voldemort parlait à l'Inférius et non à elle. Elle se figea, terrorisée à l'idée que Voldemort ne remarque son erreur. Mais celui-ci observa sans ciller l'Inférius marcher avec empressement vers un coin de la pièce, avant de s'y recroqueviller docilement, son visage mort dénué de toute expression. « Je crois qu'il est temps, » murmura Voldemort pour lui-même. « Oui, c'est le bon moment. » Dis-moi, Bellatrix, poursuivit-il en haussant la voix, aurais-tu par hasard emmené ton ancienne baguette avec toi ? Bellatrix écarquilla les yeux au comble du bonheur. Voldemort lui avait prêté, pour ses premiers essais pratiques, une baguette en noyer qui ne lui convenait pas vraiment, mais qu'elle avait tout de même réussi à utiliser. Chaque nuit, Bellatrix emportait avec elle les deux morceaux de sa baguette en acacia, espérant secrètement qu'un jour, si elle réussissait une prouesse particulièrement difficile, Voldemort lui accorderait comme récompense de réparer cette baguette si chère à ses yeux. Et ce soir, lorsque Voldemort lui posa cette question, elle crut naïvement que le moment était venu et s'empressa de sortir de sa poche les deux morceaux de sa précieuse baguette. « Absolument, regardez, la voilà !» s'exclama-t-elle radieuse. « Vous m'aviez promis de la réparer, mais je n'osais pas vous demander, vous... « Vous pensez que vous pourrez le faire en une nuit ? » Voldemort considéra avec amusement les deux morceaux de baguette et éluda la question. « Tu y tiens beaucoup, je présume. »« Oh oui, énormément. » À nouveau, Bellatrix crut voir une lueur rougeoyer dans les yeux de Lord Voldemort. Mais tout comme la première fois qu'elle l'avait aperçue, elle se dit que c'était un effet de son imagination. « Très bien. Dans ce cas, jette-la dans le feu. » Bellatrix s'arrêta aussitôt de sourire. Était-ce une plaisanterie ? Mais elle ne sera plus utilisable, remarqua-t-elle d'une voix faible. Je le sais bien. Bellatrix resta interdite. Cette baguette était l'objet auquel elle tenait le plus, le seul auquel elle tenait vraiment en réalité. Voyant cela, Voldemort se leva et s'approcha d'elle à pas feutrés. Je pensais que tu n'avais peur de rien, Bellatrix, dit Voldemort d'une voix douce. Il la prit délicatement par les épaules, et Bellatrix sentit le trouble se répandre dans tout son corps. « Dis-moi un peu, à ton avis, qu'est-ce qui te différencie de moi ? De vous ?»«
Nous sommes tous les deux talentueux, brillants,
mais à ton avis, de quoi me suis-je débarrassée pour devenir aussi puissant ?» Bellatrix pensa à de nombreuses choses, la lâcheté, la paresse, mais elle se doutait bien que ce n'était pas la réponse que Tom Jedusor attendait. « Du doute, » dit-il finalement. « Cette petite chose infernale qui retiendra ta baguette au moment fatidique et qui t'empêchera d'atteindre le sommet de ta puissance. À partir de maintenant, Bellatrix, je vais te demander une chose difficile, celle de me faire confiance aveuglément. Est-ce que tu en es capable ?»«
Oui, oui !»
assura précipitamment Bellatrix, qui ne voyait pas bien le rapport avec sa baguette.
« Qu'est-ce qui pourrait te faire douter, à ton avis ? Eh bien, tous ces liens qui t'entravent, toutes ces choses auxquelles tu accordes de l'importance, ce ne sont que des obstacles. Une seule chose doit compter désormais, notre quête vers le pouvoir. Il faut te débarrasser du reste. Si je te demande de faire cela, c'est pour être certain que tu seras prête à tout me sacrifier. »
« Mais, maître, cette baguette... »
« Quoi, Bellatrix, tu y tiens ? Elle a une valeur sentimentale ? Elle te comprend mieux que personne ? » ?»«
Oui, je le sais. Mais je suis certain que l'autre te conviendra mieux. Tu dois me faire confiance. Cette décision ne te rendra que plus forte. » La mort dans l'âme, Bellatrix regarda les deux morceaux de bois qu'elle avait dans la main. Voldemort descendit ses doigts le long du bras de Bellatrix et prit sa main couverte de sang séché qui tenait la baguette brisée. « Faisons-le, » murmura-t-il, « ensemble. » Guidée par Voldemort, Bellatrix avança lentement sa main vers les flammes qui dansaient à hauteur de ses yeux, et la gorge serrée y jeta les deux morceaux de sa baguette. Voldemort dut la tirer vers l'arrière pour esquiver la déflagration que produisit le cœur de la baguette en se désintégrant. « Tiens, » dit Voldemort en posant un objet allongé au creux de sa main. Bellatrix eut beaucoup de mal à détacher son regard du feu qui crépitait au milieu de la pièce, mais finit par regarder ce que Voldemort lui donnait.
« Baguette de noyer, ventricule de dragon, 31,8 cm, » dit-il en imitant le ton de Monsieur Ollivander. « Elle te conviendra parfaitement désormais. Elle doit te convenir. »
En refermant ses doigts autour de la baguette en noyer, Bellatrix sentit quelque chose bouger, sans savoir si le mouvement avait lieu dans la baguette ou bien dans son fort intérieur. Puis, elle eut la surprise de ressentir une chaleur intense dans ses doigts et de voir des étincelles vertes jaillir à son extrémité. La baguette avait fini par s'incliner et par s'aligner sur les désirs de son maître. Ou bien, peut-être était-ce Bellatrix qui avait plié.
« Je te laisse, » dit Voldemort en partant. « Tu as bien mérité le droit de t'entraîner avec ta nouvelle arme. »
Cette nuit-là, Bellatrix resta longuement devant le brasier, sa nouvelle baguette en main, à contempler les deux morceaux de bois gémir et se consumer. De nos jours, Drago se réveille en sursaut. Il s'est encore endormi sur le petit bureau. Il masse sa nuque endolorie, se frotte les yeux et regarde autour de lui pour s'assurer qu'il est bien chez lui, dans le bureau calfeutré de la tourelle Est et non dans le sous-sol du serpent qui fume, devant le feu qui consume la baguette de Bellatrix. Une aube farouche se lève sur le jardin envahi par les ronces. Maudit rêve. Quelle idée aussi de raconter cet épisode juste avant de s'endormir. Il se lève et se casse la figure par terre. Ses jambes ne répondent plus, engourdies après plusieurs heures de compression sur la chaise. Il attend une minute que le sang revienne jusqu'au bout de ses orteils, puis marche tant bien que mal jusqu'à la porte, malgré les picotements douloureux qui lui parcourent les mollets.
« Tous les matins, c'est la même histoire » râle-t-il intérieurement en descendant une volée de marches en colimaçon pour entrer dans la salle de bain.
Il fait un brin de toilette, puis revient à son poste de travail.
Depuis combien de temps n'est-il pas sorti de la tourelle Est ?
Il n'en a aucune idée. La neige continue de tomber, mais quel jour est-on ? Quel mois ?
Drago ne sait plus. Mais après tout, qu'importe. Les jours se suivent et se ressemblent.
Drago avance dans son travail, et c'est bien la seule chose qui compte.
Drago revient au journal de sa mère.
Il éprouve un certain malaise en lisant les premiers passages qui concernent Bellatrix.
Lui ne l'a connue que des années plus tard, après 14 ans de captivité à Azkaban, et elle était déjà devenue folle alliée.
Inconsciemment, dans l'imagination de Drago, Bellatrix avait toujours été ainsi.
Il a donc été assez perturbé en découvrant dans le journal de sa mère une jeune fille qui, certes, était particulièrement séduite par les idées dominatrices de son entourage et ne vivait que pour défier l'autorité, mais qui était aussi fragile, gourmande et prête à se mettre en quatre pour défendre sa petite sœur.
Quoi qu'il en soit, c'est un véritable soulagement pour Drago d'en avoir fini avec cet épisode. C'est un des plus glaçants, à son avis.
La rencontre de Bellatrix et Voldemort avait eu des conséquences terribles. Certaines que tout le monde connaissait bien, puisqu'elles avaient touché l'intégralité du monde des sorciers. Mais il y en avait encore d'autres, dont Scorpius n'avait jamais été averti, et qui pourtant le touchaient de très près.
Quant à Narcissa, à l'époque des faits, elle ne s'était doutée de rien et poursuivait sa scolarité à Poudlard.
Elle se sentait toujours coupable du renvoi de Bellatrix et prenait donc souvent de ses nouvelles.
Sa grande sœur l'avait immédiatement rassurée en lui racontant la rencontre inespérée qu'elle avait faite dans le train, puis avait évoqué des leçons de magie dans un endroit secret. Bellatrix lui écrivait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse et Narcissa avait décidé de la croire. Elle ne soupçonnait donc absolument pas ni l'ampleur de ce qui se tramait, ni l'emprise que Voldemort commençait à avoir sur sa sœur aînée. Elle ne réaliserait cela que plus tard, trop tard. Tout comme la manière dont la baguette en acacia avait été détruite, qu'on n'apprendrait que des années après. Pendant ses 4 premières années de scolarité à Poudlard, Narcissa avait peu écrit, prise dans le tourbillon des cours et des découvertes. Dans son journal, elle évoquait son amitié avec Daisy, sa rivalité avec Carla Avery et Juliette Selwyn, ses succès dans l'ensemble des matières, à l'exception des potions. En tournant la page, Drago sourit et oublie, pour un temps, l'existence de Bellatrix et de Voldemort. Car ça y est, il arrive bientôt au passage qu'il préfère.
Chapitre 13. Les deux rivaux. Les gloussements réjouis d'Orion Black retentissaient jusqu'au dernier étage du 12 Square Grimoire. Devant lui, sur la table du salon, trônait une assiette mal terminée et un exemplaire de la Gazette du Sorcier datant de quelques jours et qui titrait à la une. Atteint d'une mystérieuse maladie, le ministre de la Magie, Nobilitch, démissionne. C'est avec une émotion que nous apprenons aujourd'hui la démission de notre bien-aimé ministre, Nobilitch. Il était le premier né moldu à prendre la tête du ministère, ce qui était une grande fierté pour nombre de citoyens dans un monde où les sorciers d'origine moldue restent tristement sous-représentés dans la plupart des gouvernements. Après une longue durée de convalescence, en raison de problèmes de santé d'origine mystérieuse, il a déclaré ce matin ne plus être capable d'assurer correctement le commandement du ministère et s'en remet ainsi à l'assemblée du Magen Magot pour désigner celui ou celle qui lui succédera. Il aura donc passé 6 années courageuses à la direction de notre ministère et nous nous souviendrons toujours de la détermination avec laquelle il a lutté pour faire disparaître les discriminations de toutes sortes, autant au sein du ministère que dans le reste du pays. Malgré la bonne nouvelle que cette démission représentait pour la communauté des Sans-Purs, Orion l'avait accueillie de mauvaise grâce, car celle-ci donnait raison aux vantardises de son beau-frère et cousin, Cygnus Black. Celui-ci prédisait la démission de Nobilitch depuis des mois, et lorsque la nouvelle avait éclaté, Cygnus était fièrement venu agiter l'article sous les yeux d'Orion, ce qui lui avait passé l'envie de célébrer l'événement. Et ce soir-là, l'article qui causait tant de joie à Orion était celui qu'il tenait dans ses mains, taché de graisse, et qui datait du jour même.
Eugenia Jenkins, élue ministre de la magie. Il y a quelques jours, nous déplorions la démission de notre ministre Nobby Leach. Pour lui succéder, deux candidats se sont présentés devant l'Assemblée du Magen-Magot. Cygnus Black, défenseur des valeurs traditionnelles et partisan de l'intégration prudente des sorciers némoldus, et Eugenia Jenkins, qui dirigeait jusqu'ici le département de la justice magique. Les délibérations pour départager les deux candidats ont duré plusieurs jours et le verdict est tombé ce matin. Eugenia Jenkins a été choisie par le Magen-Magot avec une écrasante majorité des votes. Nul doute que le soutien publiquement apporté à Eugenia Jenkins par Nobby Leach, d'une part, et Albus Dumbledore, d'autre part, ont largement joué en sa faveur. Il faut ajouter également que plusieurs rumeurs accusent Cygnus Black d'avoir comploté avec Abraxas Malfoy pour chasser Nobby Leach de son poste de ministre. Ce qui, vous vous en doutez, n'a pas manqué de refroidir la sympathie du Magen-Magot à l'égard de Cygnus Black. Celui-ci a eu beaucoup de mal à retenir sa colère lors de l'annonce des résultats. Nous rappelons à notre aimable lecteur que celui-ci avait été débouté une première fois par le Magen-Magot il y a 6 ans de cela, face à Nobby Leach. Et déjà à l'époque, Cygnus Black avait eu du mal à digérer sa défaite. Orion exultait. Cela faisait des semaines que Cygnus lui rebattait les oreilles avec son avènement imminent au poste de ministre de la magie, et Orion trépignait d'impatience à l'idée de le remettre à sa place. Il était prêt à attendre jusqu'au bout de la nuit pour le voir rentrer, les épaules affaissées, la mine dépitée. Afin de l'accueillir dans les meilleures conditions, il avait même exposé en évidence sur la table l'article de la Gazette du Sorcier ainsi que la caricature grotesque que le hibou jacasseur avait fait de lui à l'occasion de sa défaite, avec une tête énorme et des chevilles enflées à éclater. Orion détestait beaucoup de choses et beaucoup de gens, la plupart de ceux qu'il connaissait, en réalité, mais rien ni personne n'égalait son beau-frère. Depuis leur jeunesse, il avait toujours détesté ce cousin éloigné, ce coq d'une arrogance insupportable devant qui tout le monde se mettait à genoux. Mais la véritable raison de la haine féroce qui animait Orion, c'était que Cygnus avait fini par épouser Druella Rosier, la femme qu'il avait convoitée pendant des années, la seule personne qu'il eût réellement aimée. Car Orion avait aimé Druella de tout son être. Il l'avait courtisée durant toute leur scolarité à Poudlard, malgré un sale sang de bourbe qui lui tournait autour et que Druella semblait beaucoup trop apprécier. Orion avait surmonté son vertige pour s'engager dans l'équipe de Quidditch de Serpentard, simplement pour que Druella le remarque. Et puis, comme Druella ne pouvait décemment pas épouser le sang de Bourbe qu'elle fréquentait à l'époque, Orion avait bien failli réussir à l'obliger à l'épouser. Et il aurait sans doute réussi s'il n'y avait pas eu cette bécasse de Veragoyle pour l'en empêcher. Alors, après un petit arrangement, les Rosiers avaient accordé la main de leur fille à Cygnus, et on avait prié Orion de se contenter de Valburga. Et rien, pas même les montagnes d'or accumulées dans les 3 coffres qu'Orion possédait à Gringotts, n'avaient jamais réussi à guérir les blessures d'amour et d'orgueil que Druella Rosier avait laissées derrière elle. Dans ses rêves, Orion tuait son beau-frère chaque nuit. Puis le jour venu, il se contentait de prendre son mal en patience et attendait avidement le moment où il pourrait l'humilier publiquement et le voir soumis à ses ordres. Car ce jour-là, cela ne faisait aucun doute, Druella regretterait amèrement d'avoir choisi Cygnus, et malgré tout le mal qu'Orion lui avait fait, elle viendrait enfin s'agenouiller devant lui pour lui demander pardon.